bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour l'épisode 43 de ITcast du 12 mai 2017. Aujourd'hui avec Maxime, on reçoit Jean-Pierre Riel, leader du GUS, la communauté Data Microsoft. Il nous explique les principales nouveautés du SQL Server, de la data en général et de Power BI, annoncées en avril à la conférence DataAmp. Mais c'est aussi cette semaine la conférence Build, alors si vous cherchez des nouvelles en podcast et en français, rendez-vous sur le site de nos confrères dev.microsoft.fr/build. Tout de suite, on retrouve avec Maxime Jean-Pierre Riel qui nous parle de data. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ITcast et aujourd'hui donc je suis évidemment avec Maxime, fidèle au poste. Salut Maxime.
Salut, bonjour à tous.
Tu vas bien? T'es bien rentré de ton petit voyage?
Ouais, super. Tout va bien, j'ai pas beaucoup bronzé parce que j'ai eu 2 semaines de pluie, mais à part ça, tout va bien.
Donc on peut rappeler que tu étais en...
J'étais en République Dominicaine, ouais, pour un déplacement professionnel de 2 semaines.
Ah, y en a qui ont des clients sympas. Hein.
Ouais, j'ai pas à me plaindre.
Et donc aujourd'hui, Maxime, on a un collègue à toi comme invité, en la personne de Jean-Pierre Riel, qui est Practice Manager Data et BI chez Azeo et qui est également leader du GUS, qui est la communauté Data Microsoft. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Pascal, bonjour Maxime.
Salut.
Tu vas bien?
Et ça va très bien, je suis content de participer à ce podcast que j'écoute assidûment, même si je ne comprends pas forcément tout, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'IT, mais j'apprends en tout cas beaucoup de choses dans votre podcast.
Ah bah c'est sympa, et puis tu as aussi également un autre podcast.
Exact, oui, alors du côté de la communauté data, bah, on s'est lancé aussi, parce que c'est à la mode et c'est un bon format, on s'est lancé dans les podcasts, hein, mais là bah, forcément on ne parle que de data pendant 1 heure.
Ok, ben on mettra les références de votre podcast et de votre communauté sur notre site. Et donc, merci de venir parler avec nous. Et Maxime, pour commencer, on va faire le tour de quelques brèves d'actualités communautaires.
Ouais, très rapide. Alors, effectivement, le 22 avril dernier, je ne sais pas si vous étiez au courant, on a quand même pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait le Global Azure Bootcamp. Voilà, c'était juste pour résumer que un événement mondial dans le monde entier est effectué dans pas mal de grandes villes, dont 6 villes en France. Donc Nice, Aix-en-Provence, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Paris. Donc voilà, un grand bravo à tous les organisateurs et aussi aux participants qui ont été assez nombreux, et donc voilà, un super événement international dans le monde entier le 22 avril dernier. On vous mettra quelques liens pour accéder au contenu et voir tout ce qui s'était passé ce jour-là, mais voilà, super événement.
Tout à fait, je confirme, j'étais invité à participer à l'édition de Nice, qui était quand même une des villes les plus sympas.
Moi, j'étais à celle de Paris en tant que speaker sur des sujets Azure et data.
Ouais. Super, bon, vous pouvez peut-être parler rapidement de votre session, non?
Oh, ben, pour ma part, j'ai fait une keynote d'introduction de la journée, donc quelques généralités, les grandes généralités actuelles sur Azure, hein, un petit peu les nouveautés. Et en fait, on a fait en sorte avec mes collègues évangélistes Microsoft de participer à le plus possible des villes de cette journée. Et je crois qu'il n'y a que Bordeaux sur laquelle on n'a pas pu malheureusement être présent. Mais il y a Thierry Mille qui a assuré la keynote à notre place, et très bien. On avait fait en sorte d'avoir la même keynote pour toutes les villes avec mes collègues, pour avoir une introduction un petit peu commune. Et puis ensuite, ben c'est les organisateurs, puisque c'est un événement qui est organisé par une communauté Global Azure Bootcamp, hein, qui n'a aucun rapport avec Microsoft, qui avait du contenu en fonction de chaque ville. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres villes, mais chez nous, à Nice, il y avait des choses assez intéressantes. Il y avait des labs, il y avait des manips sur l'IoT, des choses assez sympas. Hein.
Ouais, c'était très très riche, puisque de toute façon Azure est extrêmement large, donc forcément il y en a un petit peu pour tous les goûts. Moi j'étais accompagné d'un autre MVP qui est Fabien Dato, et on a présenté sur Azure Data Lake, donc un produit qu'on aime beaucoup et que j'ai adoré présenter. Et après, tu parlais des labs, on a fait 2 heures de lab, parce que c'est l'un des principes du Global Azure Bootcamp, c'est de mélanger des sessions et puis un peu des hands-on. Donc on a fait 2 heures de hands-on sur 2 sujets qui n'ont rien à voir, Azure Data Factory et Power BI Embedded. Donc on voit vraiment que sur Azure, il y a vraiment le grand écart sur les sujets. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet vraiment aux gens qui sont là de voir tout un tas de sujets qui des fois sont pas couverts parce que la conférence est trop dev, trop IT, trop data, trop ceci. Là l'avantage, c'est qu'on a on mélange un peu tout le monde.
Exactement.
Ouais, super événement. Donc sur une journée complète en plus. Hein, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de contenu. Je suis un peu triste d'avoir loupé ça quand même.
Ouais, bon, tu avais d'autres priorités.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, quelques jours après, il y a eu le Rebuild à Nantes aussi, le 27 avril. Donc là encore, un événement organisé par la communauté, dont notamment Kevin Tréholand. À Nantes, voilà, dans un lieu assez sympa, avec pas mal de speakers français, tout le monde s'est déplacé, donc voilà. Ça fait déjà quelques années qu'on fait le Rebuild là-bas, et c'est toujours un plaisir chaque année de pouvoir s'y retrouver. Après, y a quelques autres événements de la communauté hein, qui sont prévus. Alors moi, j'ai la chance de co-organiser avec Patrick Guimonet l'AOS Grenoble le 22 mai prochain. Voilà, ça me permettra de revenir dans mon pays et d'organiser ça à Supinfo Grenoble. Ah, et après, okay. On a d'autres événements, donc le SharePoint Saturday Monaco le 3 juin, et d'autres événements à AOS Toulouse le 20 juin, et je serai aussi à l'AOS Genève le 22 juin. Donc voilà, pas mal de choses là, avant l'été, pas mal d'événements qui s'organisent, donc voilà. N'hésitez pas, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous, on vous attend avec impatience.
Il y a toujours un événement AOS quelque part en France.
Toujours. C'est voilà. ça n'arrête
et pas que
une
en
belle
France.
Communauté très très
en dynamique. France et dans le monde entier.
Ouais, la semaine prochaine, je fais un podcast, moi. Un podcast, pardon, je dis n'importe quoi. Je fais un meet-up à Nantes, justement, sur Docker et Windows. Docker dans Windows.
Super.
En fait, c'est un meet-up conjoint. Entre la communauté MS, la communauté Microsoft, et le meet-up Docker à Nantes, en fait.
Okay.
Le 18.
Alors, moi, je vais faire un peu de promo pour un événement qu'on organise Auguste, en plus qu'on veut vraiment international, alors pas auteur du Global Azure Bootcamp, mais on a un événement, un format qui s'appelle les 24 heures du pass, en anglais 24 hours of pass, donc HOP, hop, où en fait l'idée c'est un format pareil international, et nous on s'occupe de la version francophone, et l'idée c'est simple, c'est de faire 24 heures de session. Alors quand on est en anglais, on a tous les fuseaux, donc on peut faire du 24 heures non-stop. Nous, on le fait en 2x12 heures, on triche un petit peu, mais on fait ça avec nos confrères du Canada. On essaye aussi d'avoir des gens sur des représentants en Afrique francophone. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire 24 heures de session. Donc ça, c'est fin juin, 29 et 30 juin. C'est en ligne, voilà. Donc et après, ce sera disponible aussi sur notre channel YouTube juste après. Je fais une petite pub pour cet événement.
T'as bien raison. Bon, je vais en profiter pour faire ma pub aussi. dernière petite chose, ouais, j'organise donc un webcast sur la sécurité de Windows 10, donc les nouvelles fonctionnalités qui permettent en fait de déployer Windows 10 de manière beaucoup plus sécurisée au sein de vos entreprises. Donc ce sera notamment centré sur Windows Information Protection, Windows Defender ATP aussi. Donc voilà, ce sera le 24 mai, cette fois ce sera en ligne, webcast. Donc on vous mettra les liens, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est bien sûr gratuit.
C'est un webcast en direct ?
Oui, ce sera de 14h à 14h30, 14h45, ça dépendra s'il y a des questions ou pas. C'est ça, ce sera bien en direct. Ouais.
Cool. Okay,
voilà. Bah, j'ai pas grand chose d'autre pour la partie communautaire, mais comme d'hab, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un petit peu de partout, sur Facebook. voilà, on essaie d'être actif, de partager les dernières infos avec vous. Donc voilà, on se retrouvera là-dessus.
Et donc si on a invité Jean-Pierre à se joindre à nous aujourd'hui, c'est pour parler évidemment des data, des données, du SQL et pas que, autour des technologies Microsoft. Et donc Jean-Pierre, il y a une actualité très riche au mois d'avril et début mai autour des produits data Microsoft.
Exact, en fait, hein, là, en 30 jours, on a pris une avalanche de news. Alors, et ce qui fait qu'elle est assez notable aussi, c'est que d'habitude, on est habitué à avoir beaucoup de news de ce qui vient d'Azure, parce qu'il y a beaucoup de produits, parce qu'ils sont mis à jour en permanence. Et là, en fait, c'est plutôt calme côté de la plateforme de données qu'on va trouver dans Azure. Mais là, l'actualité, c'est la prochaine version d'SQL Server. Et donc, il y a une conférence, Microsoft a fait une conférence qui s'appelle DataAmp. On donnera les liens. Il y a tout un tas de vidéos. Il y a la keynote. Il y avait Scott Guthrie qui était là aussi pour démarrer cette conférence, pour faire quelques annonces autour de la data, avec bien sûr la plus grosse annonce. Alors tout le monde a été pris de court. On s'en doutait pas du tout. Ils ont annoncé le nom du prochain SQL Server qui va s'appeler SQL Server 2017.
Oh, quelle surprise. Voilà,
énorme surprise. Non, plus sérieusement, bon, ça, au moins ça confirme ce qui avait été annoncé, ouais, au niveau de la date de sortie. Microsoft avait annoncé que ça serait en 2017. Mmh. Alors c'est toujours pareil, hein, 2017, mais quand ? Parce que ça va jusqu'au 31 décembre. Là maintenant, ils se sont mis une vraie deadline, dans le sens où le nom du produit porte le nom de l'année, donc on sent bien que ça va arriver. Donc l'annonce de SQL 2017, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec une CTP 2, 2.0, et donc on voit le produit se construire et les fonctionnalités apparaître, ou en tout cas prendre vraiment forme là-dessus. Et là, pour le coup, on a plein de news. Il y en a un petit peu pour tout le monde, pour les DBA, pour les gens qui font plus de la BI, du machine learning, même pour les développeurs. Hein, il y a une grosse nouveauté pour les développeurs, pour les architectes. Enfin bref, il y a vraiment un wagon de news qui est arrivé avec cette conférence.
Alors, ce qui est déjà notable pour une nouvelle version du SQL Server 2017, donc en l'occurrence, c'est qu'on n'est plus que sous Windows, en fait.
Exact, oui. Alors, ça fait un moment que le sujet est sur la table, mais Microsoft travaille d'arrache-pied, en fait, à uniformiser sa version de SQL Server, mais pour qu'elle soit finalement... Alors, le terme, il ne vient pas de Microsoft, hein, mais je cite mon cher confrère Christophe Laporte, quand il parle de SQL Server Everywhere, où l'idée, c'est de se dire, avec une même licence, donc ça, Microsoft a bien insisté là-dessus, hein, c'est ouais, si j'achète une licence pour un cœur, bah, en fait, je peux la déployer sur Windows, ça on sait le faire depuis longtemps, mais aussi sur Linux. Alors je crois qu'en plus ils ont augmenté la liste des distributions Linux qui sont supportées, donc il y a Red Hat, SUSE et Ubuntu, mais aussi sur Docker maintenant, sous forme d'un container Docker. Donc voilà, une seule licence, et puis finalement vous pouvez choisir où est-ce que vous déployez, où est-ce qu'on déploie SQL Server. Donc quand ça avait été annoncé, on était tous un petit peu dubitatifs en se disant mais pourquoi Linux, où va Microsoft, et maintenant en fait on voit bien que l'idée, c'est juste de se dire il n'y a plus aucune excuse. Voilà, c'est vrai qu'on connaît tous des DBA qui font la blague en disant de toute façon j'installerai SQL Server quand ça tournera sur Linux. Bon ben voilà, c'est fait. donc finalement le marché s'ouvre, on fait un petit peu comme on a envie avec nos licences SQL Server.
Et du coup, au niveau des éditions, comment ça se passe? Parce qu'on connaît bien l'édition standard Enterprise sur Windows, mais sur les autres plateformes, comment ça se passe?
Alors, ça a été annoncé justement, alors je ne suis pas sûr que ça a été annoncé à DataAmp, mais j'étais à une conférence le week-end dernier qui s'appelle SQL Nexus, où il y avait l'un des principal program managers autour du moteur, et donc il a confirmé que les licences restent les mêmes, les éditions restent les mêmes. Donc c'est vraiment, on achète une licence d'un cœur, par exemple SQL Server standard, en fait après on peut la mettre sur du Linux, sur du Windows, voilà. Donc le périmètre fonctionnel, c'est l'édition. Donc il y a dev de mémoire, hein, dev standard, web et puis enterprise, et donc ça c'est le périmètre fonctionnel, et ensuite après le nombre de cœurs, finalement il n'y a que ça à licencier, quoi. Okay. La plateforme n'entre pas en ligne de compte.
Et donc du coup, on est capable de faire du cross-platform, par exemple, avec un cluster, avec de l'always on ou ce genre de choses, ou c'est pas encore au point ça?
Ouais, bah si, que c'est, on commence à avoir des topologies. Alors après, j'essaye de comprendre des fois certaines qui peuvent être annoncées comme compatibles, de trouver le vrai use case, comme par exemple faire de l'always on où tu aurais un réplica qui serait par exemple sur du Linux, alors que le reste de ton nœud de ton always on est sur du Windows. Parce que pour le coup, si tu as déjà du Windows, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir un de tes nœuds sous Linux. Mais en fait, sur des scénarios de migration, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que finalement, tu mets des nœuds de chaque côté, sur Windows, sur Linux, tu bascules, et puis après, tu éteins ton Windows et tu restes sur Linux, par exemple. Donc ça peut être ce type de scénario. Ou alors, on parle aussi dans des scénarios de type réplication, même si actuellement, c'est pas encore... faudrait que je vois, je sais pas si depuis l'annonce de la CTP2, la réplication est supportée et sur Linux et sur Docker. Mais ça peut être intéressant, là, pour le coup, d'avoir des nœuds, on va dire, low cost, que tu mettrais sur du Linux, qui fasse partie d'un always on, par exemple.
Ok. Bien sûr, je suppose que le support dans Azure aussi sera et peut-être déjà là aussi. Je pense qu'on a déjà une image CTP2 dans Azure pour faire des tests.
J'ai pas vérifié la CTP2, mais je pense, parce qu'en général l'annonce souvent c'est pas il y a une CTP2 disponible, c'est aller dans Azure et puis cliquer sur. Enfin voilà, souvent la VM ou en tout cas l'image est disponible avant les binaires l'ISO. Mais sur ce point-là, j'ai pas vérifié. Je pourrais vous mettre le lien si en confirmant la news.
Sur la page, okay. Quand on voit sur la page de SQL Server 2017, donc on peut télécharger la public preview et dans les options, en fait, il y a Linux, macOS, c'est donc un container Docker, Windows, oui. Docker et Azure. Et Azure, en fait, on est redirigé vers, vers le marketplace.
Hein. Ouais, voilà le portail où on instancie ça avec, là pour le coup, soit du Bring Your Own License. De toute façon, c'est de la preview, donc il n'y a pas de notion de licence. Par contre, je me suis fait avoir, moi, sur la CTP 1.3, c'est qu'elles sont, il y a une time bomb dedans, donc elles s'éteignent au bout d'un moment. Donc il faut, voilà, quand on rentre dans le mécanisme de preview, il faut continuer, il faut upgrader en fait les versions CTP 1.3, 1.4, 2.0 actuellement. Ouais, parce que c'est pas fait pour la prod.
Il y a donc des versions, donc des images Docker pour SQL Server sur Linux et sous Windows d'ailleurs. Alors je vois bien le scénario du type développeur, le poste du développeur, par exemple le développeur qui a un Mac. Le seul moyen qu'il a de tester un SQL Server en local, c'est un container Docker. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres scénarios que simplement la machine du développeur en local?
Alors, il y a les tests. Hein. Si on veut automatiser des tests, c'est quand même beaucoup plus simple de remonter rapidement une image, lui descendre un DACPack ou un backpack pour monter l'environnement, ensuite faire ses tests applicatifs et faire ça. Donc, mais on reste dans le monde dev test, quoi. Maintenant, sur de la prod, j'ai eu pas mal de discussions avec les confrères et je vais pas dire qu'on cherche encore. En effet, ce qu'on attend, celui qu'on voit, c'est vraiment les scénarios de type réplication. Pour le coup, je veux avoir des abonnés très largement dans le monde entier ou sur plusieurs data centers. C'est finalement de monter très rapidement un abonné qui pourrait participer à une réplication, descendre un catalogue pour faire de la montée en charge ou des choses comme ça assez rapidement, en fait. Là, on est dans le principe, principe et les avantages de la containerisation. Maintenant, évidemment, un data warehouse, ça n'a pas de sens de le mettre sous forme de container, hein, puisque c'est quelque chose qui doit être 24/7, sur lequel on a des contraintes matérielles, où finalement on réfléchit beaucoup plus son architecture. Voilà, c'est pas juste une image qu'on monte. Donc à voir, c'est des choses qui sont encore neufs dans le monde de la donnée. Je pense que les scénarios vont arriver petit à petit, au fur et à mesure aussi que l'image Docker embarque de plus en plus le plus de fonctionnalités dans le périmètre fonctionnel qu'on a de SQL Server.
Je vois sur la page du Data Amp qu'il y a énormément de vidéos qui concernent SQL Server sur Linux. Pas mal de scénarios qui sont envisagés, donc je recommande à tout le monde d'aller voir faire un tour là-dessus.
clairement, ça fait un peu le buzz, hein, puisque c'est vraiment, pour le coup, ça a été une grosse annonce qui montre aussi que Microsoft s'est sauvé, hein, parce que le nombre de fois, tout à l'heure, la petite référence, la petite blague que je faisais sur les DBA qui disaient « j'installerai jamais SQL Server tant que ça ne tourne pas sur Linux », c'est des blagues réelles, en fait, hein, c'est pas juste un argument marketing, c'est vraiment, voilà, il y a des IT qui ne font que du Linux, et ben maintenant, ils peuvent avoir dans leur choix de base de données, il n'y a pas que Oracle ou MySQL ou Postgre, il y a aussi SQL Server qui reste l'une des meilleures bases de données du monde. Je crois qu'ils en ont profité au DataM pour rappeler un peu le track record. Hein. Je crois que maintenant on doit être à 7 années consécutives en étant la base de données la moins vulnérable. Alors c'est assez rigolo la formulation, hein, parce qu'on dit pas que c'est la base de données la plus sûre, on dit que c'est la moins vulnérable, mais bon, ça revient à peu près au même. Et je crois qu'au dernier TPCH, hein, qui est c'est un benchmark, hein, de base de données, hein, de gros workload OLTP ou data warehouse. Donc le H, je sais plus si c'est de l'OLTP, je crois que c'est de l'OLTP. C'est simple, hein, SQL Server se prend les 5 premières places. Voilà, sur différentes archives, puisque le TPC, hein, c'est quelque chose qui mesure l'OS plus la base de données plus le hardware. Et donc je crois qu'il y a du Linux qui s'est classé dans le top 3. Il y a du SQL Server sur Linux qui s'est classé, il me semble.
Tu as testé toi-même SQL Server sur Linux ?
Non, là je laisse les DBA de mon équipe jouer avec ça. J'ai pas eu l'occasion de jouer avec, mais je suis très curieux, donc j'ai beaucoup d'échanges avec les gens de la communauté, d'autres DBA qui soient de mon équipe ou des gens avec qui je travaille pour prendre leurs avis, en fait, les use cases, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion de jouer encore avec SQL Server sur Linux.
Il faudra qu'on y revienne un jour pour voir justement comment ça a été porté sur Linux. Puisqu'on a quelques bribes d'informations, mais bon, aujourd'hui on n'a pas encore vraiment de détails vraiment techniques. On y reviendra.
Ouais, il y a un peu les secrets d'ingénierie. Après, je ne sais pas si Microsoft va dévoiler tout ça. Ce qui est sûr, c'est que, mine de rien, à l'intérieur de SQL Server, il y a ce qu'on appelle le SQL OS, qui gère tout ce qui est mémoire et I.O. Et là, je vais faire un gros raccourci, et les développeurs de chez Microsoft, je leur demande tout de suite de m'en excuser. Mais globalement, après, il reste presque plus qu'à avoir un peu un émulateur qui va faire tourner ce SQL OS, et donc tout ce qui va être allocation, tout ce qui va faire tourner finalement à l'intérieur du moteur, fonctionne exactement pareil. Après, le code, c'est du C++, donc forcément, c'est des choses qui sont censées tourner aussi sur d'autres plateformes dès l'instant où on a tous les appels bas niveau qui sont faits. Moi, la question que j'ai, c'est la CLR, puisque moi, je me suis dit, quand j'ai vu arriver SQL Server sur Linux, je me suis dit, bon, ok, il va y avoir tout sauf la CLR. Et en fait, dès la première bêta, il y avait déjà des fonctionnalités spatiales qui tournent en CLR. Donc, ça veut dire que globalement, ils font tourner. Il y a de l'émulation aussi de .NET à l'intérieur, enfin sur Linux. Donc là, par contre, j'ai pas trop d'infos. Je sais pas s'il y a du mono qui tourne ou du .NET Core, je sais pas trop. Voilà, là-dessus, j'ai pas les infos. Mais je serais ravi d'essayer de trouver des personnes qui pourraient mieux y répondre pour un futur podcast.
Ok, j'ai pas de billes là-dessus, mais en fait, .NET Core fonctionne très bien sur Linux. PowerShell a été porté grâce à ça. Donc on peut imaginer que si cette partie-là utilise .NET Core, ça n'a pas été un gros problème.
Voilà. Il y a quand même beaucoup de travail, mais en tout cas, c'est pas une réécriture complète du moteur, en fait. C'est ça qui est important de voir. C'est on n'est pas sur quelque chose. Enfin, très rapidement, on a un périmètre fonctionnel qui est quasi équivalent, en fait. Hein, ouais. Ce qui est juste énorme pour un produit qui était tagué Windows à 200%. Quoi.
Tout à fait. Ok. Donc pour le multiplateforme. Tu voulais ensuite nous parler d'une fonctionnalité qui s'appelle GraphDB qui a été annoncée récemment, c'est ça ?
Ouais, alors là, c'est très intéressant pour les développeurs. Alors, il y a un truc moi qui m'a un peu étonné, c'est la news est passée dans un slide comme ça par, je crois que c'était Joseph Sirach ou Rohan Kumar qui a mis ça un slide dans DataAmp. Et je me dis, mais là, pour le coup, c'est quand même quelque chose de majeur parce que, donc on sait SQL Server, c'est une base relationnelle. Elle est capable de déborder un petit peu avec notamment du XML, du JSON, donc d'aller un petit peu vers aller un petit peu plus loin que le relationnel qu'on connaît habituellement. Mmh. Mais par contre, les bases de données orientées graphes, c'est souvent un autre moteur ou quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, par exemple, il y a Neo4j, qui est l'une des plus connues, et le moteur est radicalement différent. Et donc là, Microsoft annonce au détour d'un slide que SQL Server va supporter des requêtes de type graph. Alors, on en a su un petit peu plus au SQL Nexus, où on a une belle présentation, et d'ailleurs, on nous a montré la syntaxe qu'il y avait derrière. Et finalement, en discutant, c'est vrai qu'au final, une base de données graph, ça reste que une certaine vue de l'esprit de table et de relations entre des tables. C'est juste que le moteur et la syntaxe du moteur va permettre des requêtes un petit peu plus sympa pour des, enfin, une syntaxe oui plus lisible pour des choses qui peuvent être compliquées liées à des graphes. Parce que le principe des graphes, hein, c'est de dire que un nœud est lié à un autre, et puis ces nœuds, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être tout un tas de choses. Et on veut par exemple, donne-moi toute personne qui est déjà venue dans ce lieu-là. En relationnel, on peut le faire, mais ça reste un peu plus compliqué. On va avoir beaucoup de jointures pour répondre à la question, et les bases de données graphes sont censées répondre à ça. Donc pour moi, c'est une grosse nouveauté pour les devs parce que ça permet d'avoir une base de données qui est déjà bien implantée, de lui permettre d'offrir des fonctionnalités de type graph, orienté graph là-dessus. Je vais essayer de retrouver. Alors, le problème, c'est que les slides sont accessibles aux gens qui ont participé à la conférence, mais pas publiquement. Donc, je vais voir si peut-être que sur le site de DataAmp, Joe Sack, le speaker, il s'appelle Joe Sack, peut-être qu'il fait une petite démo des bases de données orientées graphes sur le site de DataAmp.
Bah, écoute, on cherchera dans les vidéos. Ok. Évidemment, en ce moment, un sujet qui est très tendance et c'est pas juste un effet de mode, c'est le machine learning.
Exact.
Parce qu'il est évidemment permis par toutes ces technologies de big data en fait, qui sont en relation avec les data. Quoi.
Exact. Alors c'est vrai, quand on dit big data, on pense à tout sauf SQL Server, puisque big data, souvent on l'associe au NoSQL, on l'associe à Hadoop, qui est une autre plateforme, qui est en full distribuée. Donc on pense pas forcément à des bases de données type SQL Server, mais mine de rien, depuis 2016, Microsoft essaye d'orienter sa base de données et de lui donner de la doter de capacités analytiques plus importantes pour notamment faire du forecasting, du prédictif, des choses comme ça, dont le machine learning est un sous-ensemble. Et donc là, ce qui a été annoncé, donc il y a déjà R qui avait été montré dans SQL Server 2016, hein, donc il y a les R services, donc c'est la possibilité d'exécuter du code R à l'intérieur de SQL Server sur les données qui seraient dans une table, donc ce qui permet pour le coup de jouer par exemple un algorithme d'entraînement de machine learning sur votre data warehouse, donc non plus sur un échantillon, mais sur les milliards de transactions que vous pouvez avoir dans votre data warehouse. Donc là, c'était en R. Ce qui a été annoncé là, c'est que finalement, on a Python qui vient d'arriver. Alors après, est-ce que Python est mieux que R? Est-ce que R est mieux que Python? Je pense qu'on n'est pas là. Tel que l'a présenté Microsoft lors de la conférence, c'est simple, c'est de dire, si vous prenez le top 3 des langages qui sont utilisés, donc ils passent sur... C'est pas sur Stack Overflow, c'est sur un autre site en fait qui fait un peu un benchmarking des langages. Et en fait, c'est simple, hein, ceux qui sont à la mode, c'est R, Python et SQL. Donc au final, ça semble logique maintenant que SQL Server sache parler SQL, R et Python. D'accord. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté qu'on a autour d'SQL Server. C'est la possibilité de faire du Python à l'intérieur d'une procsoc, par exemple. Et la deuxième news qui bouscule plus de code en fait et de conventions, c'est tout ce qui est lié au deep learning. Donc le deep learning qui est encore un sous-ensemble du machine learning qui permet notamment tout ce qui est algorithme cognitif. Donc c'est finalement faire réfléchir votre ordinateur, un serveur un petit peu comme le cerveau humain. Donc il y a des choses qui sont très gourmandes de deep learning, c'est par exemple l'analyse d'images. par exemple trouver des objets sur une photo, identifier des visages, des choses comme ça, ou l'analyse de documents, par exemple. Donc ça en fait, les algorithmes existent en R et en Python, donc on peut dire c'est cool, ça va marcher, sauf que ça consomme énormément de CPU. Et comme c'est souvent du calcul matriciel, le GPU est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus puissant pour le calcul. Ben, en fait, ce qui a été annoncé là, c'est que les algorithmes R et Python vont pouvoir faire du deep learning et d'utiliser de la puissance GPU plutôt que de la puissance CPU, et donc ainsi encore plus améliorer les algorithmes de machine learning au sein d'SQL Server. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui casse un petit peu la façon dont on monte une plateforme de données. C'est que moi j'ai posé la question à tous mes amis DBA, aucun n'a vu un jour une plateforme avec du GPU. Et ben maintenant, il va falloir réfléchir, hein, quand on va monter une plateforme pour pouvoir faire du machine learning, à mettre du GPU sur le serveur. Donc ça remet pas mal de choses en cause. Ou si on parle dans le monde Azure, d'aller vers des... Je crois que c'est les séries G, c'est ça, qui contiennent du GPU.
Les N, je pense.
N, perdu. Voilà, j'ai voulu faire un raccourci avec G, mais pas du tout. Donc ouais, il y a les séries qui sont spéciales avec du GPU. Mais en fait, il va falloir y réfléchir pour certains types d'usages, finalement, de la base de données. Très machine learning. Alors voilà, on voit bien les workloads qui se séparent. Au final, c'est le même produit, mais peut-être une install spécifique Data Warehouse, spécifique OLTP, spécifique machine learning et deep learning. Donc ça, c'est assez intéressant comme news.
Oui, effectivement. L'adaptive query processing, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors, je vais faire une grande famille de news, parce que là, il y a plein de petits trucs qui sont arrivés.
Je suis désolé, hein, j'ai lu les trucs, je les comprends pas tous, parce que c'est vraiment pas moi.
Non, mais il n'y a pas de souci. Hein.
Donc là, je te rassure, moi non plus.
Alors j'espère que je ne vais pas perdre vos auditeurs, parce que moi j'apprends beaucoup de choses en vous écoutant sur justement des choses que je ne connais pas, et ça me donne envie de les creuser, donc j'espère que l'inverse sera vrai.
Mais nous c'est pareil, donc voilà.
Sur ça. Donc pour les DBA, en fait, je vais essayer de le simplifier et de ne pas rentrer dans le détail, parce que là pour le coup j'aurais un vrai risque de perdre votre auditoire. Mais en fait, c'est simple, en fait. Ça a été présenté comme ça, c'est que le slide, c'était le midnight call. Donc on est des BA, on est appelé au milieu de la nuit parce qu'il y a une proc stock qui s'exécute beaucoup plus lentement que d'habitude. Et donc là, il faut se connecter, il faut aller faire un petit peu de troubleshooting, essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, ce que tout le monde sait, c'est que la première des choses à faire, c'est pas d'identifier la root cause, c'est plutôt de faire du mitigate, donc de finalement atténuer, ou en tout cas corriger rapidement l'anomalie pour revenir à une situation normale. Mmh. Et moi, je me souviens, au tout début que j'étais DBA, je me disais... j'expliquais que c'était important d'avoir un DBA. Je leur disais, mais ça se trouve, dans 10 ans, dans 20 ans, mais en fait, la plupart des opérations que je suis en train de vous faire pour optimiser votre code, ça se fera automatiquement. Ben, en fait, avec 2017, là, il y a toute une série de petits détails, de petits trucs qui font que la correction d'un plan d'exécution, d'une procédure stockée qui serait non performante, ben, en fait, se fait quasi automatiquement. Je dis bien quasi, hein, je ne veux pas croire non plus qu'il y ait une baguette magique dans un SQL Server, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft apprend de Azure SQL Database, hein, donc là, pour le coup, je ne sais plus combien de millions de bases de données, d'instances de bases de données sont installées et utilisées tous les jours sur le cloud, donc ça, c'est Microsoft qui opère. Bah, finalement, ils mettent en place des algorithmes qui permettent de rendre la base de données adaptive, et donc finalement de faire en sorte qu'elle se corrige par elle-même. Donc il y a plein de petits trucs, il y a l'auto-tuning pour rajouter un index dynamiquement, pour revenir en arrière sur un plan d'exécution parce que les stats auraient changé et qu'au final le nouveau plan d'exécution ne serait pas le plus adapté. Et voire même, et là on arrive avec l'adaptive query processing, ont été annoncés que potentiellement en cours d'exécution, un plan d'exécution pourrait être amené à changer. Donc est-ce que ça pourrait décider de changer un type de jointure, par exemple, en plein milieu d'une exécution, parce qu'en fait, il s'aperçoit qu'il irait plus vite s'il faisait différemment au regard des premières lignes qui ont été processées. Mmh. Donc ça, c'est vraiment pour moi une grosse avancée, parce que pour le coup, il y a tout un tas de travaux qui deviennent automatique. Et là, on est la puissance vraiment de l'ingénieur Microsoft et même du machine learning, parce que je crois savoir, alors je ne veux pas faire de l'affirmation, parce que sur cette feature, je sais, j'en suis pas sûr, mais je sais que Microsoft travaille à mettre finalement un peu de machine learning pour dans un plan d'exécution ou dans des choses comme ça. Je sais qu'ils le font pour la sécurité, pour identifier des attaques notamment, mais d'avoir du machine learning pour justement rendre les choses un petit peu plus intelligente au final, un petit peu plus adaptive, qui vont s'adapter finalement à l'environnement.
J'espère que ça n'a pas favorisé le code de mauvaise qualité, cet auto-tuning.
Alors, je pense que c'est un risque maintenant de te dire qu'au final, la façon dont ça tourne, on s'en fiche. Si ça fait gagner du temps, pourquoi pas. Alors après, je pense que comme moi, t'es un puriste et on invite les procstock et le code SQL soient le mieux écrit possible. Mais en même temps aussi, on peut peut-être se dire, on va se concentrer sur autre chose et puis on va laisser la machine réécrire, optimiser et améliorer le code en fait. On le voit d'ailleurs moi je suis un ancien développeur et je vois maintenant comment on code. Ben en fait, on laisse plein de choses au compilateur et à l'optimiseur et à l'environnement. Ben voilà, quand il y a un truc qui est un peu lent, le réflexe c'est plutôt de dire, ben on va le faire tourner sur une VM un peu plus large, plutôt que de se dire, ben tiens, je vais essayer de faire rentrer mon code dans 64 kilobits de code source avec un méga drame, quoi. Donc bon, je sais pas, je suis d'accord avec toi, mais en tant que puriste ça me fait un peu peur de me dire que bah, ça encourage pas à ce qu'on code proprement, mais à vrai dire, à l'heure du cloud, à l'heure des containers, est-ce que c'est un souci au final?
Non, je suis d'accord avec le parallèle avec les optimiseurs des compilateurs, puisque c'est du temps où je programmais, c'est il y a vraiment très longtemps, on faisait déjà pas mal confiance à l'optimisateur du compilateur C pour optimiser un petit peu les boucles, les opérations qu'on faisait un petit peu salement dans notre code, quoi. Donc pourquoi pas, hein.
Ouais, bah, c'est à voir. En tout cas, ça permet juste d'avoir un shift sur parce que tout ça fait gagner du temps et ce temps il va être peut-être mis sur peut-être à la rigueur pour un DBA de passer plus de temps avec les développeurs en amont, parce que au final, je préfère avoir du code SQL qui est moyen et que tu peux optimiser après, plutôt que des vraies erreurs fondamentales d'architecture, par exemple des gens qui font des modélisations en clé valeur pour faire du relationnel, juste parce que c'est à la mode et parce que ils ont vu sur Stack Overflow que ça avait l'air sympa de faire du clé valeur, puis qu'après ils se retrouvent à faire d'ailleurs c'est même pas eux, c'est des trucs type Entity Framework ou autre chose qui font 45 jointures pour récupérer 3 colonnes, quoi. Donc au final, moi je trouve que ça nous force à nous adapter, et il y a peut-être un risque que ça soit dans le mauvais sens, mais il y a peut-être aussi un risque que ça soit dans le bon sens, peut-être au final.
Et voilà. Justement, parce que bon, c'est un petit peu le sujet dans tous les jobs de l'IT et même du développement, mais est-ce que tu sens que ces dernières années, notamment avec toutes les sorties, les nouveautés, le machine learning, big data, ton job il a vachement changé? Est-ce qu'il a vachement évolué par rapport à il y a 5 ans par exemple? Et est-ce que tu te dis, maintenant les DBA ils doivent mettre l'accent sur la formation, ils doivent être un petit peu plus impliqué dans la veille des produits et de ce qui se passe dans l'écosystème pour pas être largué? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le voit de plus en plus ou pas plus qu'avant?
Complètement, moi je hurle ce message à toutes les keynotes des événements auxquels je participe, enfin, en tout cas où j'ai cette fenêtre d'annonce. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est y a les deux virages, hein, c'est le cloud, et côté BI, je déteste le terme big data, mais c'est devenu un standard de fait. Donc c'est vraiment les deux éléments qui font évoluer notre métier. Et il y a quelques années, j'avais assisté à une keynote du PaaS Summit, donc qui est la plus grosse conférence data Microsoft qu'on puisse trouver au monde. Et on a eu une magnifique keynote sur l'évolution justement du métier de DBA vers le métier de cloud DBA, où en fait on perd tous ses repères. C'est-à-dire qu'on ne gère plus, des DBA, même encore maintenant, bien sûr, mais on était à. comme dit une confrère, bare metal, c'est-à-dire que on pense son serveur, on compte les I/O, on compte les disques, on est presque à choisir dans le catalogue le type de disque dur qu'on veut. Ben en fait, ça on le voit de moins en moins. On réfléchit plus maintenant en capacité, en coût, avec des vraies notions, des vraies questions d'architecture de fond en fait. Pas juste de forme de dire bon alors combien je dois faire d'IO, 6 000, 10 000, 1 million, mais vraiment de fond c'est quelle doit être mon architecture, comment je vais segmenter mes workloads, comment je vais transformer finalement ma plateforme de données dans mon entreprise. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Par contre, en effet, ça nécessite de se poser la question de faire un vrai boulot d'architecte et donc de connaître tout le périmètre d'outils qu'on a à notre disposition. Et si on inclut toute la plateforme de données qu'on trouve dans Azure, plus maintenant toutes les fonctionnalités de SQL Server, ben en fait, il y a énormément de travail. Et donc ça, comme tu l'as dit, je conclurai là-dessus, c'est de la formation. Alors, la formation, elle est toute forme, mais en tout cas, la première chose, c'est de la veille, quoi. C'est de se dire, voilà, une base de données, c'est plus juste j'installe SQL Server, j'ai un moteur de base de données. SQL Server est devenu tellement tentaculaire, tellement compliqué à appréhender que construire une plateforme de données, finalement, faut réfléchir cloud, faut réfléchir hybride, faut réfléchir avec ses flux, faut réfléchir avec ses workloads. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, mais la contrepartie, c'est que ça nécessite d'avoir une bonne vision de tout ce qu'on trouve finalement dans ces outils.
Et très rapidement, mais si par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui sort de l'école qui voudrait se lancer là-dedans. Est-ce que tu as des ressources à leur conseiller, des méthodes de travail ou des choses à creuser, des plateformes qui existent de formation ou ce genre de choses?
Alors, il y a en effet, je pense que vous devez le citer à tous les podcasts, il y a Microsoft Virtual Academy qui regorge de ressources. Après, des podcasts, des webcasts, niveau ressources, je pense que faudrait vraiment être de mauvaise volonté pour ne pas trouver de ressources. Maintenant, il faut juste faire attention, c'est que en fait, on a un périmètre extrêmement large et le métier de DBA, par essence, reste un métier quand même qui demande de l'expérience, parce qu'il ne suffit pas juste d'appliquer le bon pattern et on a une base de données aux petits oignons qui va être capable d'encaisser des millions de transactions, par seconde. Mais néanmoins, voilà, faut prendre le temps de lire les ressources et après, il faut faire son métier de DBA, il faut construire des plateformes, regarder comment elles fonctionnent, rentrer dans la technique, ouvrir le capot. Hein. DBA, il doit forcément ouvrir le capot, que ce soit dans le cloud, dans de l'hybride ou dans du on-prem. Et là, pour le coup, à chaque fois qu'on est confronté à un souci ou à quelque chose à optimiser, en fait, on va trouver des ressources qui vont nous découvrir tout un pan. Donc, il y a tout un cheminement à faire, qui est potentiellement long. Je veux freiner personne et réfréner aucune ardeur, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il suffit pas juste, contrairement à ce qu'on peut trouver dans la BI ou dans le dev, où très rapidement on est capable de faire un modèle, un dashboard, une application. Là, il y a quand même tout un travail où il faut comprendre comment fonctionne le moteur. Donc il suffit pas de lire la revue technique d'un modèle de voiture pour savoir démonter le moteur et le remonter. Il y a vraiment tout ce travail à apprendre. Donc les ressources, elles sont là. Après, il y a peut-être un moyen d'accélérer un petit peu la démarche, c'est d'aller vers le cloud, parce qu'on a une plateforme qui est où forcément on passe moins de temps, on va dire, proche du hardware, et donc on peut se concentrer finalement sur des sujets de suivi, de regarder comment elle fonctionne. Voilà, on est assez high level. Donc potentiellement, le cloud peut être un accélérateur de carrière dans le monde de la donnée.
Ok, ouais, c'est quand même pas donné. Quand tu veux faire une vraie infrastructure dans Azure, ça peut vite monter, je suppose.
Alors, c'est tout le problème. Hein. Moi,
ça c'est le problème qu'on a tous hein, quand on veut faire des plateformes.
Moi, ça m'est pas arrivé, mais je citerai quelques confrères MVP qui s'amusent à faire des topologies always on qui bastonnent un petit peu. Hein, donc, des trucs où tu arrives avec des terabytes de data. Quand tu commences à être en storage premium, etc., tu peux vite bloquer un compte. Mais je crois que dans MVA, on a des labs, des choses comme ça, où les machines sont provisionnées. Donc, ça tape pas dans son abonnement ou dans son offre dans son trial de démo, en fait.
On a également des éditions gratuites de SQL qu'on peut installer.
Le oui, après, il y a le on-prem, hein, dans tous les cas, je crois. Là, d'ailleurs, c'était une news, elle date un petit peu, mais la développeur édition qui, à une époque, coûtait un petit peu d'argent, je crois que c'était 70€, hein, donc on va dire que c'est énorme. Mais quand on est étudiant, je peux comprendre qu'on n'a même pas envie de mettre 70€ là-dedans, mais en fait, sans aller sur du Express ou des versions gratuites, la version développeur est gratuite. Et elle a le même périmètre fonctionnel que l'Enterprise. Donc, en effet, on peut faire des choses assez sympas sur son propre PC et commencer à regarder comment ça fonctionne. Voilà. Après, faut quand même des jeux de données. Donc, ça, pour le coup, il y a Microsoft qui fournit des bases de données d'exemples. Il y a la très fameuse AdventureWorks, mais là, ils en ont sorti d'autres qui, notamment, tirent parti des nouvelles fonctionnalités, Column Store Index, l'établi de memory, des choses comme ça. Donc, il y a plein de jeux d'exemples qui sont assez intéressants, même on-prem. Tu as raison de le souligner, Pascal. C'est vrai qu'au final, si vous avez un PC, bah, téléchargez SQL Server et jouez avec.
Cool. Tu auras un pointeur pour les bases d'exemples ?
Oui, alors sachant que c'est en train de changer, puisque c'était sur Codeplex. Codeplex, Microsoft a annoncé le commissionnement, je crois que c'est à la fin de l'année, c'est ça. Mais tout est en train d'arriver sur GitHub, donc puis de toute façon, il y a les liens pour suivre, donc je te ferai passer les pointeurs sur Codeplex et GitHub.
Super. Ok, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés de SQL Server 2017 qui ont été annoncées récemment. S'il y en a peut-être d'autres, peut-être qu'on fera une passe un autre jour. Deux mots sur Power BI.
Alors, je vais faire deux mots, mais à la rigueur, je vais faire un peu de promo pour la communauté naissante autour de Power BI. Donc, tout d'abord, en effet, il y a une grosse annonce qui est tombée mercredi dernier autour de Power BI, avec une évolution majeure du mode de licensing, et avec donc une nouvelle version de Power BI qui s'appelle Power BI Premium, qui est encore tout neuf. Actuellement, je crois qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponse dans ce mode-là. Et on va faire donc un décryptage le 16 mai prochain, parce qu'on a une jolie communauté toute neuve qui s'appelle le Club Power BI, qui est orientée pour les utilisateurs du produit Power BI. Et on a décidé de bousculer notre agenda et de faire tout le meet-up va être sur l'explication de ce nouveau mode de licensing. Mais en deux mots pour les auditeurs de ce podcast, qui sont d'ailleurs plus IT, ce qui est intéressant dans ce mode de licensing, c'est que finalement on arrive avec un mode un peu capacitaire. C'est-à-dire qu'actuellement on avait vraiment, on était soit en mode gratuit, on ne faisait pas grand-chose, soit en mode payant mais par utilisateur. Là l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu intermédiaire et de se dire j'ai vu passer le terme de freemium, mais je ne sais pas si c'est le plus adapté, mais globalement l'idée c'est qu'on va acheter des nœuds qui ont une certaine capacité, donc ça c'est encore à définir. Les calculateurs sont en train de s'affiner, il y en a quelques-uns disponibles, mais je suis pas sûr qu'ils soient très 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 précis. Mais l'idée c'est de se dire je vais mettre un nœud P1 qui correspond à X cœurs et X gigas de RAM, et finalement après, quel que soit le nombre de personnes qui tapent dedans, au final, au bout d'un moment, j'aurai juste plus de puissance et donc ça deviendra lent. Donc l'idée c'est d'avoir un peu un mode capacitaire, c'est que finalement j'achète, j'ai mon budget, j'ai un budget pour avoir 3 nœuds qui tournent 24/7, je me mets 3 nœuds, dessus que j'ai 10 utilisateurs ou 1 million d'utilisateurs, je paierai toujours le même prix. Ce qui est un petit peu difficile avec soit Power BI Embedded ou Power BI version Software as a Service, parce que on paye aux utilisateurs, donc si demain j'ai 18 heures de plus, je dois augmenter mon budget. Ou alors dans Power BI Embed, où on paye à la session, mais globalement, si d'un coup j'ai un pic de consommation, j'ai aussi un pic sur ma carte de crédit. Donc voilà, il y a ce nouveau mode de licence qui arrive. D'accord. C'est encore tout frais, ça vient juste d'être démoulé par Microsoft. Donc on travaille avec un peu tous les gens de la communauté pour essayer de rendre ça le plus clair possible. Donc ça va arriver dans les jours et les semaines qui arrivent, un petit peu d'éclaircissement sur ce Power BI. Voilà. Et la deuxième petite news sur Power BI, et je terminerai avec ça, c'est que Power BI Premium, c'est le nouveau mode de licence, et ils ont donné un nom au Power BI On-Prem, qui, pareil, se rapproche à grands pas d'une General Availability, ce sera donc Power BI Report Server. Voilà. Donc, ça sera quelque chose qui arrivera au-dessus de Reporting Services. Et le petit nom, c'est Power BI Report Server, c'est le nom de Power BI On-Prem.
D'accord, donc tu ne pourras pas le déployer sans SSRS alors ?
Exact, voilà, il te faudra SSRS plus ce qu'il faut pour faire tourner Power BI Report Server, donc on-premise.
D'accord. Donc, tu es obligé d'avoir du SQL. Il n'y a pas de version standalone Power BI, en fait.
Exactement, c'est ça. Mais en fait, les licences qui permettront de couvrir ça, un petit peu comme ça l'est pour des produits type SCCM ou autre, incluent finalement un usage donc très précis du SQL Server. Mais bon, quelqu'un qui a déjà des assets SQL Server pourra très bien héberger la base de données, par exemple, de Reporting Services, puisque il y a un moment, ça se base sur une base de données SQL Server, sur des assets existants, par exemple. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué justement comment on licencie tous ces corps, etc. De quoi j'ai besoin. Mais voilà, l'idée c'est de clarifier ça dans les jours qui viennent avec peut-être des exemples concrets.
Ok.
Ok, ben merci beaucoup Jean-Pierre.
Encore merci à la communauté d'éclaircir certains points un peu obscurs du licensing. C'est toujours le point le plus obscur, je pense, le licensing, quel que soit le produit Microsoft.
C'est un métier.
Il faut vraiment des experts pour ça.
Je sais que chez Microsoft France, ils sont sur le pont parce que mes clients, mais globalement, tout un tas de clients, nous on le voit avec la communauté, certains se sont déversés chez nous en nous posant la question. Mais je sais que énormément de clients ont posé la question directement à Microsoft France et que Microsoft France travaille justement à clarifier tout ça. C'est vrai que le mode était pas très équitable pour certains workloads de Power BI, notamment des gens qui avaient beaucoup d'utilisateurs mais qui faisaient pas grand chose au final, qui consultaient un petit peu quelques rapports. Donc là c'est bien, ça va les aider avec ce nouveau mode de licensing, mais par contre ça complexifie pour d'autres. Alors c'est voilà, le problème c'est j'espère qu'on n'a juste pas déshabillé Paul pour habiller Jacques dans l'histoire, mais bon voilà, ça va se clarifier, puis peut-être changer. Enfin voilà, on est à l'heure du cloud, donc les choses sont faites pour se mettre à jour en permanence, donc on verra bien ce que ça va donner dans les semaines et mois qui viennent.
Et pour les clients existants, du coup, comment la transition se passe? Il y a une sorte de migration de licence, des fonctionnalités de perdu, je suppose, entre temps.
Alors, je vais mettre des grands guillemets sur ce que je vais dire parce que je ne l'ai pas encore certifié, mais ça sera certifié d'ici le meet-up. Mais en fait, ce qui a été annoncé, c'est en effet, les par exemple, les utilisateurs free vont perdre des fonctionnalités, un niveau fonctionnel. Là, tous les utilisateurs free ont reçu un email comme quoi, de toute façon, ils avaient un trial pro pendant un an.
Ouais, je l'ai bien reçu, moi, ce mail. Voilà, parce que j'ai été surpris de recevoir un mail. C'est comme ça que j'ai appris que Power BI Premium arrivait.
Voilà,
grâce à ce mail.
Alors, mais je pense que le mail a justement ouvert la boîte de Pandore des questions et des interrogations. Mais voilà, parce qu'ils ont voulu tout de suite éviter les gens qui disent mais c'est bizarre parce que bon, après c'était gratuit, donc on peut pas se plaindre non plus de dire que j'ai moins de choses parce que pour le même prix, puisque de toute façon on payait zéro. Mais en effet, ça posait de grandes questions sur les gens qui avaient entre guillemets construit leur use case autour d'un mix de pro et de gratuit. Donc là voilà, pour couper court à ça, Microsoft dit bon, de toute façon vous inquiétez pas pour les gratuits, vous avez en gros un an pour vous faire un peu au nouveau périmètre fonctionnel du gratuit. Après, pour ce qui est de transférer du pro vers du premium, du premium vers du pro, ça j'ai encore plus de questions que de réponses.
Ok, ben j'espère que t'en auras un peu plus le 16, c'est ça?
Le 16, oui. Normalement, on devrait avoir quasi toutes les réponses parce que là, actuellement, justement, on a des calls avec les équipes produits pour comprendre, pour avoir finalement toutes les réponses pour les clients.
Super.
Ok, bah merci beaucoup Jean-Pierre de toutes ces infos sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans ce podcast, et puis ça fait du bien de changer un petit peu.
Bah c'est sûr, ouais. Ouais. Et puis moi j'apprends des trucs aussi.
Ouais, exactement, et puis on a envie d'aller un petit peu creuser, et notamment je vais me précipiter pour aller tester SQL Server sous Linux, moi de mon côté. Je recommande également à tout le monde d'aller écouter évidemment le podcast de la communauté Data, Microsoft, donc du Gus. Je mettrai...
Exact.
J'espère que j'ai trouvé un
On a des petits soucis de diffusion, on est sur SoundCloud, mais on va changer de plateforme, donc c'est encore un peu artisanal de notre côté. Hein, mais bon, on les met sur YouTube aussi, donc bon, normalement vous devriez trouver les podcasts de Gus.
Ok, pas de problème, je vais trouver le pointeur. Et également, cette semaine, il y a l'événement phare de Microsoft qui s'appelle la Build qui a lieu cette semaine à Seattle cette année. J'ai des collègues qui animent un podcast, je crois, tous les jours. de cette semaine, enfin en tout cas pendant la durée de la build. Donc n'hésitez pas également à aller les écouter pour avoir les dernières infos en français sur la build. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci Pascal.
Merci Maxime. Et puis on se retrouve très bientôt. Et en attendant, on vous souhaite un bon week-end, puisque on diffuse cet épisode ce vendredi.
Merci à tous et très bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tous.
Merci, au revoir.